Voici la main verte et le sourire d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour à tous.
Tout le monde sait à France Inter, vous êtes un chou. Ouais, transition mal habile pour parler du chou ce matin et le chou de Bruxelles en particulier.
Mais pas du tout, je vous remercie de ce petit trait d'humour, ce chou de Bruxelles qui, vous le pensez, doit être originaire de Belgique. Eh bien, méfiez-vous Eric de toutes ces plantes dont le nom peut vous induire en erreur. Alors je pourrais vous citer le peuplier d'Italie qui est originaire d'Afghanistan, le sophora du Japon, originaire de Chine, le marron d'Inde qui vient de Grèce et ou d'Albanie, ou encore le chou de Bruxelles, originaire d'Italie.
D'Italie, alors d'Italie. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Bruxelles ?
Alors il fut, c'est une certitude, autrefois cultivé en Italie, puis chez nos voisins belges au XIIIe siècle. C'est dans ce pays qu'il va obtenir ses lettres de noblesse, mais il y a un problème, voyez-vous, et il est de taille, la place pour le cultiver commence à Bruxelles à manquer.
Bruxelles est pourtant une grande métropole.
Oui, mais elle connaît comme toutes les villes d'Europe des périodes sombres, et de 1356 à 1383, vous observerez que les dates sont précises,
oui, je vois ça.
Il est érigé autour de la capitale une seconde enceinte pour renforcer la protection de la ville. Il est bien sûr évident que toutes les cultures potagères existantes sont déplacées pour permettre la construction de remparts, de bâtiments militaires et de maisons. Et parmi tous ces légumes déplacés, le chou de Bruxelles, qui est dorénavant cultivé à Saint-Gilles, un village limitrophe devenu aujourd'hui l'une des 19 communes de Bruxelles capitale. Voilà. Et donc, c'est à cet endroit-là exactement que le nouveau centre sera implanté.
Sauf que le déplacement des cultures, ça n'empêche pas d'avoir assez peu de place pour planter le chou.
Et c'est là où je crois que vous allez être assez épaté, vous qui connaissez, je pense, l'apparence d'un chou de Bruxelles. Eh bien, les maraîchers, dès le XVIIe siècle, vont sélectionner des variétés qui poussent verticalement. Tu sais, le chou de Bruxelles, en fait, ce sont des multitudes de petits choux qui poussent sur une tige bien dressée. Eh bien, ce sont les maraîchers qui vont favoriser cette méthode de production pour gagner, bien entendu, la place, une place qui manque cruellement, comme je viens de vous le dire.
Et est-ce que la Belgique domine toujours ce marché du chou de Bruxelles ?
Ah, vous parliez tout à l'heure d'une petite expression avec le mot chou, j'aime les expressions, et il y en a une qui dit on ne peut être et avoir été. Eh bien la Belgique aujourd'hui n'est plus que le troisième pays producteur en Europe, après les Pays-Bas et l'Angleterre. La France, elle, occupe la quatrième place avec 6% de la production totale. Et je vais vous avouer que c'est pas très mal non plus comme placement, parce que je n'aime pas beaucoup les choux de Bruxelles à titre personnel, et mes compatriotes apparemment pas davantage. Ils préfèrent, et je pense que vous en êtes aussi Eric, vous préférez vous aussi certainement le chou-fleur, qui est Cocorico, le français le plus exporté.
Le chou français le plus exporté.
Ah, le chou-fleur, oui, tout à fait. On a beaucoup parlé des choux produits en Bretagne, mais il est vrai que le chou-fleur est une gloire nationale qui est exportée partout dans le monde.
Alain Baraton, question des auditeurs à présent. Première question de Dominique. Elle a constaté, Dominique, que dans le sac de terreau, des petites billes de couleur jaune apparaissaient. De quoi s'agit-il ?
C'est très mauvais signe. Vous savez, aujourd'hui, on parle souvent de la qualité des aliments qu'on achète. Mais on pourrait aussi parler de la qualité du terreau qu'on achète. Il y a du terreau qui est fabriqué aujourd'hui en déchetterie. En fait, on broie tout et n'importe quoi. Et puis, pour que ça puisse quand même profiter aux plantes, que fait-on ? On met de l'engrais. Mais de l'engrais chimique. Alors là, vous achetez du terreau, c'est d'une sorte de granules de restes de tiges, c'est broyé, c'est noir, c'est marron, ça ne sent rien, et vous avez ces petites billes, en fait c'est l'engrais. En un mot, ça ne sert à rien du tout d'acheter du terreau dans de telles conditions, autant acheter de l'engrais directement. On est quand même, avouez-le, limite escroquerie.
Paul, entend quelques conseils. On me dit que les géraniums résistent au gel, et pourtant les siens, ces géraniums, gèlent tous les ans. Que faire ?
Eh bien, je crois qu'il y a aujourd'hui un problème à bien assimiler le nom des plantes. Vous appelez vous-même, Eric, j'en suis convaincu, géranium, cette fleur que l'on voit partout sur les balcons.
Qu'on offrait aux mamans à la fête des mères à l'époque, on les distribuait à l'école.
Eh bien, tout à fait bien, ce n'est pas des géraniums que vous offriez, c'était des pélargoniums. Le géranium est une plante vivace qui effectivement résiste au gel sans aucune difficulté. Le pélargonium, qui est donc, pour faire simple, la variété cultivée du géranium, elle, eh bien, ne supporte pas le froid et elle est gélive. Alors, quand on a la chance d'habiter au sud de la Loire, on peut effectivement garder des géraniums d'une année sur l'autre dans des pots. Quand on est au nord, c'est beaucoup plus aléatoire. On va avoir bientôt quelques questions du style comment faire pour protéger mes géraniums du froid ? Alors, anticipons les prochaines questions. Lorsque la météo annonce l'arrivée du gel, jetez simplement par-dessus vos plantes une vieille couverture, quelques cartons. Il faut simplement éviter que le froid, que l'eau et que le gel soit en contact direct avec la plante. Et il y a ainsi de fortes chances, même à Paris, de conserver d'une année sur l'autre les pélargoniums.
Géranium et pélargonium, même combat. Oui. Roger vous demande, est-il vrai qu'il existe un fusain grimpant? Pour moi, le fusain, c'était un crayon de papier un peu gras.
Oui, bah, écoutez, pourquoi l'appelle-t-on fusain, ce crayon en papier? Parce qu'il a été produit justement avec du fusain qui a été carbonisé, qui a été brûlé.
Charbon.
Tout à fait, tout à fait. Eh bien, il y a bien entendu une variété de fusain grimpant, on le sait peu. On l'appelle Leonimus fortunei, le nom botanique. Il peut grimper jusqu'à 6 mètres de hauteur. Alors, il n'est pas extraordinaire, mais parfois, il peut être subtilement employé quand vous avez, par exemple, des buissons avec du fusain. Utiliser en fond un fusain que l'on palisse, car la plante doit être palissée, eh ben c'est pas mal du tout.
Votre balade ou votre conseil du jour ce matin?
Oh, une nouvelle, c'est un très joli petit livre, Le maire qui aimait les arbres, c'est beau. Il est signé Jean Chalandas, il est publié aux éditions du Rouergue dans la collection Domaine du possible. C'est simplement l'histoire d'un maire qui demande à un paysagiste de lui parler d'arbres et d'en implanter dans sa commune. C'est délicieux à lire, c'est beau et c'est, j'allais dire, c'est positif. On aimerait que ces maires existent vraiment, qu'il y en ait beaucoup plus.
Le maire qui aimait les arbres, c'est écrit par Jean Chalanda et c'est paru aux Actes Sud. Merci Alain Baraton. D'ailleurs, vous aussi, vous aimez les arbres.
J'aime les arbres et j'ai une petite pensée pour Jean Giono, l'homme qui plantait les arbres.